Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV.
C'est vous qui représentez le système.
Et ben voilà, il est 9h40 sur France Inter, dernier instant M de la semaine. Le Parisien aujourd'hui en France vend des journaux le dimanche, plus que d'autres même. Le problème, c'est que ces éditions baissent, et ce, plus que la semaine. Le problème aussi, c'est que personne n'en parle. Or, dans le match du week-end, il est un journal qui s'est taillé une belle part de voix toute cette année, le JDD, ou Journal du Dimanche, qui frappe fort avec ses grandes interviews, ses tribunes et ses enquêtes. Résultat, le JDD est largement repris par les télés et les radios. Il impulse l'actu, beaucoup moins le Parisien, ou aujourd'hui en France, le dimanche. C'est sans doute ce qui a décidé ce quotidien. À repenser ces éditions du 7e jour. Et oui, dans le jargon des imprimeries et des kiosques, on appelle ça la presse du 7e jour. Un peu comme si le dieu des journalistes avait à contre-pied décidé qu'à la fin de la semaine, la création n'était pas achevée.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Bonjour Stéphane Albouy.
Bonjour.
Directeur des rédactions du Parisien aujourd'hui en France, la presse du 7e jour, c'est beau, hein?
Oui, c'est beau.
J'aime beaucoup, beaucoup cette expression.
Nous, c'est 7 jours sur 7, par ailleurs, le Parisien. C'est un peu particulier.
Voilà,
ça ne s'arrête jamais.
Voilà, je disais le dieu des journalistes. Voilà. On va reparler un petit mot sur l'actu des médias d'abord. C'est à lire dans le Figaro ce matin un très grand papier qui annonce, je cite, le clap de fin pour le Netflix de France Télévisions. C'est le grand projet de Delphine Ernotte, une plateforme de vidéos à la demande par abonnement. Selon le quotidien, c'est Matignon qui y mettrait fin, notamment pour des questions de cohérence économique. Par exemple, faire payer les utilisateurs alors que ceux-ci sont déjà des contribuables qui payent la redevance. 30 personnes auraient donc travaillé en pure perte sur ce projet qui finit en cul-de-sac. Faux et archi faux, répond France Télévisions que nous avons joint ce matin. Le groupe dit être en discussion avec plusieurs partenaires, y compris privés, pour élargir son offre et donner à voir des œuvres françaises. Budget validé par le conseil d'administration de France Télévisions. Faux et également faux, dément Matignon. Toxic Twitter, c'est le nom d'une vaste enquête menée depuis 16 mois par Amnesty International pour étudier la façon dont les femmes sont victimes d'insultes, de harcèlement et de menaces sur Twitter. L'ONG va un cran plus loin désormais. Elle recrute une patrouille de trolls, c'est comme ça qu'elle les appelle. Ce sont ces termes pour traquer et collecter les tombereaux d'injures que reçoivent les femmes journalistes ou les femmes activistes qui s'expriment sur le réseau, c'est-à-dire sur le site des Échos ce matin. Enfin, Mathieu Gallet, ancien président de Radio France, a bien déposé un recours au Conseil d'État contestant la décision du CSA de le démettre de ses fonctions. Il l'avait annoncé au mois de février. C'est BFM Business qui a relevé ce recours hier, qui a révélé ce recours hier, pardonnez-moi. La semaine prochaine démarrent les auditions des 6 candidats à la présidence de Radio France. Et puis, oyez, oyez, c'est l'heure de l'instant Madeleine, votre jeu préféré du vendredi, tous à vos mails. Le premier qui répond à l'instant M, tout attaché, l'instant M à radiofrance.com, a gagné un CD entier d'entretien avec Herbert von Karajan, le grand chef d'orchestre. Alors voici ma question. Qui est cet animateur télé qui, lors de sa dernière émission, il était en train de quitter Antenne 2, jouait à déclamer du Corneille?
Vous vous souvenez bien sûr les premiers vers de ce fameux monologue du Cid de Pierre Corneille. Vous avez dû l'apprendre à l'école. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port.
Que cette voix me semble reconnaissable. La reconnaissez-vous? Vous l'avez reconnue, Stéphane Albouy?
Ah, vous avez le droit de répondre. Je cherche encore un petit peu, j'ai une idée, mais bon.
Vous avez une idée.
Je le garde.
Ok. L'instant M à radiofrance.com. Bonne chance à vous tous et surtout continuez à nous envoyer des mails. Ils font le délice de toute l'équipe que je remercie en ce vendredi parce que vous voyez, nous, c'est l'émission du 5e jour, c'est la dernière, Stéphane Albouy. Mais voilà. Mais la radio, elle ne s'arrête pas. Hein. C'est 7 jours sur 7, pareil.
Je sais bien.
Notre équipe, Violaine Ballet, la réalisation, Anne-Cécile Perrin, Redouane Tella qui prépare les émissions, notre délicieux stagiaire, Melem Chaibi et puis Victoria Asper à la technique. Vous ne le saviez pas, mais le journal du dimanche existe. Et puis, quoi encore? Ça, c'est la pub. Ça, c'est la pub du Parisien,
oui,
qui annonce que le Parisien, aujourd'hui en France, se relance le week-end. Le saviez-vous? cher Stéphane Albouy, il y a 51 quotidiens en France classés dans la presse du 7e jour.
Bien sûr, voilà. Bien sûr. En région, il y a beaucoup, beaucoup de nos confrères travaillent le dimanche. Notre positionnement, nous, est un peu particulier puisqu'on est presse quotidienne nationale et en même temps en région.
On va réexpliquer. Hein. Le Parisien pour la région parisienne, aujourd'hui en France, l'édition nationale.
Sur l'ensemble de la France. Mm-hmm. Et donc, nous, on est 7 jours sur 7 et on avait envie de réaffirmer un peu nos positions ce jour-là, ce jour particulier qu'est le dimanche.
Alors, Le Parisien dimanche, vous vendez 140 000 exemplaires contre un peu plus de 200 pour Le Quotidien.
Non, c'est l'inverse. Non, le Parisien dimanche vend 227 000 exemplaires. 227 000 exemplaires.
En diffusion France payée ?
Oui. 340 000 en semaine, quand même, et ce qui est beaucoup plus qu'un grand nombre de nos confrères, y compris le dimanche.
Ouais. Enfin, un grand nombre de vos confrères. Ouais. Enfin, on va quand même rappeler que la presse régionale le dimanche, elle est très puissante.
Sûr,
350 000 exemplaires pour Ouest France, Le Progrès 225 000, Sud-Ouest 220 000, La Dépêche du dimanche 150 000.
Enfin, et nous 227 000.
Il y a une presse du dimanche qui est quand même très, très puissante, malgré l'extinction des kiosques et malgré la difficulté souvent à trouver son journal. Il faut se battre. En effet, et c'est une vraie question que nous suivons de près dans l'instant M. Quand les chiffres que vous me donnez, c'est aujourd'hui en France plus Le Parisien.
Oui, bien sûr.
Ah bah voilà, pourquoi on n'a pas les mêmes chiffres? Parce que Le Parisien, lui, vend 140 000 exemplaires.
Absolument.
Ah bah voilà, on est bien d'accord. Et aujourd'hui en France, 90 000.
Voilà.
Bon bah merci. Vous me rassurez, le journal du dimanche, lui, 175 000 exemplaires. Il a été repris en main par Hervé Gattegnaud. Force est d'admettre qu'il s'est imposé le week-end, dans l'actu du week-end, dans l'actu nationale du week-end, dans les télés, dans les radios. Le journal du dimanche s'est imposé dans le tempo de l'actu. Stéphane Albouy.
Oui, il fait des bonnes reprises et c'est très bien et c'est très sain d'ailleurs qu'il y ait une concurrence avec des journaux qui fassent parler d'eux. Nous, on a fait le constat effectivement que malgré des ventes plus puissantes, c'est vrai qu'on nous citait peut-être un peu moins c'est à travers cette campagne aussi et à travers le travail de fond qui est fait sur l'édition dominicale qu'on a l'intention de reprendre cette position qui nous est due.
Vous aviez un peu disparu, vous ne le saviez pas, mais le journal du dimanche existe. C'est une vraie attaque frontale au JDD.
Alors, on peut le voir comme ça, mais je pense que c'est aussi une forme d'autodérision, parce que on parle de nous aussi à travers cette campagne. Donc, effectivement,
enfin, le journal du dimanche, c'est quand même le nom d'un média quand même qui existe.
Oui,
qui
mais
est
nous,
votre concurrent.
Nous, on a aussi notre journal du dimanche, qui est le Parisien dimanche.
Qui s'appelle pas le journal du dimanche.
Et je pense qu'on peut la lire dans les deux sens. Et d'ailleurs, tout ça, il faut garder un petit peu de distance et de légèreté. Mais quand je parle d'autodérision, on parle aussi de nous à travers cette campagne, parce que c'est vrai que c'est assez curieux de vendre autant de journaux que Le Parisien est aujourd'hui en France dimanche et que finalement, médiatiquement, on existe un peu moins. Ce qui est normal en même temps puisque notre confrère fait une édition dans la semaine, que nous on parle beaucoup de nous en semaine et peut-être qu'il y a simplement une curiosité médiatique qui se porte plus naturellement sur celui qui arrive qu'une fois par semaine.
Alors, mais curiosité médiatique, après, il y a quand même de quoi attirer la curiosité dans le JDD. Nouvelle formule, il y a quand même beaucoup de contenu et beaucoup de coûts. On ne va pas utiliser de jargon, votre nouvelle formule, donc, elle se modifie énormément. Quels en seront les points forts? Parce que là aussi, il faut attiser la curiosité.
Bien sûr. En fait, ce dont on s'est rendu compte, on travaille beaucoup avec nos lecteurs et au contact de nos lecteurs, avec des entretiens qualitatifs et puis des études plus larges. Et en fait, il nous demandait plus de profondeur, de densité à l'intérieur de cette édition du dimanche, là où on leur proposait peut-être quelque chose d'un peu plus léger, d'un peu plus sorti, bon plan. D'un peu plus week-end. Et ce qui a été intéressant, c'est de voir que il y a cette dimension, bien sûr, qu'il faut garder, mais il y a aussi un moment de lecture, un temps de lecture qui leur fait dire qu'ils ont peut-être finalement plus de temps ce jour-là pour aller au fond de l'info. Mm-hmm. Et c'est essentiellement ce levier qu'on actionne dans la nouvelle édition.
Mm-hmm. Et les unes ?
Et les unes sont révisitées aussi pour leur donner un petit peu plus d'impact. Vous le verrez avec une place encore plus large pour la photo et le sujet majeur qui vient.
C'est vrai qu'elle va ressembler un petit peu plus à celle du JDD en fait.
Oh non, c'est non. Vraiment. Enfin,
le côté
vous regarderez,
affiche avec photo plein pot.
Ouais, mais la photo est encore plus large. Enfin. encore plus large que celle qu'il y a dans le JDD. Mais enfin, c'est pas par comparaison et par opposition, hein, vraiment. Donc c'est pas comme ça que c'est conçu. Non, non, c'est une volonté d'appuyer ce sujet fort qu'on aura tous les week-ends.
Bon, alors la rédaction du Parisien a pas mal fait parler d'elle cette année, un petit peu plus que d'habitude. Je vous propose, puisque vous... Ah oui, je vous ai pas donné le deuxième slogan de votre affiche parce qu'il est très drôle. Nouvelle formule avec beaucoup trop de choses intéressantes à lire dedans.
Oui,
voilà, donc
c'est
on
vrai.
Rigole aux Parisiens. Mmh. Nous aussi on rigole, on vous a ressorti un petit sketch de Catherine et Liliane. Elles se sont intéressées à l'égalité homme-femme au travail.
Vous nous dites vouloir des postes à responsabilité, des postes de direction en somme, c'est ça que vous êtes en train de nous dire?
Oui, tout à fait, monsieur Linder. J'estime que la femme doit être l'égale de l'homme et donc avoir accès à des postes équivalents à ceux des hommes.
Et comment?
Mais avec quelles compétences, mademoiselle?
Eh bien, les compétences, nous les avons. Enfin, nous nous les acquérerons.
Oh, écoutez, commencez par bien conjuguer le verbe acquiescer.
Non, mais on marche sur la tête, là.
Le champ, soyez de bonne foi.
Mais la France fout le camp.
J'entends des choses.
Voilà. Est-ce que les femmes journalistes du Parisien savent conjuguer le verbe acquérir, Stéphane Alboui?
Absolument. Elles conjuguent très bien tous les verbes.
Tous les verbes. 77 d'entre elles ont symboliquement envoyé leur candidature au mois de janvier, une candidature groupée à un poste de rédacteur en chef pour protester face à une rédaction exclusivement dirigée par des hommes. Comment ça s'est passé l'entretien d'embauche à 70?
Alors, il n'y a pas eu d'entretien d'embauche parce que malheureusement, ça n'a pas été suivi d'effet. Il n'y a pas eu de candidature réelle, mais en tout cas, leur démarche a été entendue, écoutée. C'est un constat que je partage. Alors, il ne s'agit pas de la rédaction ou des rédacteurs en chef, parce que des rédactrices en chef, il y en a plusieurs dans le journal. Il s'agit en l'occurrence de la direction de la rédaction et de moi-même et de mes adjoints. Mmh. Et c'est encore une fois un constat partagé. On leur a répondu. On travaille depuis sur un audit avec un cabinet qui s'appelle Équilibre, parce que au-delà de la question même de la direction de la rédaction, on a voulu faire un état des lieux plus en profondeur de ce qui se passe, de la position des femmes journalistes à l'intérieur de notre entreprise. Et puis, enfin, quand je dis entreprise, parce qu'un journal c'est aussi une entreprise, il faut savoir que le Parisien est par ailleurs dirigé par une directrice générale, que la DRH
mais
est une femme,
responsabilité éditoriale.
Pas de responsabilité éditoriale, mais la place de la femme est quand même importante au sein de notre entreprise.
Enfin, nos consoeurs ont été quand même suivis par celle de la Provence, par celle de Ouest-France. Enfin, ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Il a fallu ça quand même pour se rendre compte qu'en France, les journaux sont jamais dirigés par des femmes. C'est très 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 rare. Là, il y a Dominique Nora qui vient d'être nommée à la tête de l'Obs.
Absolument.
Mais à part Françoise Giroud et Christine Ockrent à la tête de l'Express, les grands journaux d'info,
il y a eu Nathalie Nougaret quand même à la tête du Monde.
Oui, ça a été très bref. Ouais. Son passage a été très très bref. Vous le savez très bien. Enfin, il n'y a jamais eu une femme à la tête de Libé, jamais eu une femme à la tête du Figaro, jamais eu une femme à la tête des Échos, faut le savoir. Dans la presse régionale, c'est pareil, même quand les titres, comme c'est le cas du Parisien, appartiennent à une propriétaire femme. Mmh. Il a fallu ça quand même pour s'en rendre compte?
Non, c'est encore une fois, quand on a reçu ce courrier, cette candidature avec ma directrice générale, on a dit qu'on faisait le même constat. Je suis assez impatient qu'une femme dirige le Parisien, mais pas tout de suite, puisque là, pour l'instant, c'est moi. Mais par exemple, ce qui est important, c'est que les femmes soient au poste clé aussi de notre journal. La politique est dirigée par une femme. Mm-hmm. Le service société du Parisien
est dirigé
par une
femme. Mais c'est le cas dans énormément de rédactions, mon cher Stéphane Alboui, dans le cas. Et le problème, c'est que à la dernière marche, après, c'est un homme.
Mm-hmm. Écoutez,
dans un grand quotidien qui s'appelle La Croix et qui est le seul à avoir été dirigé pendant 10 ans par une femme.
Absolument. Encore une fois, c'est un constat qu'on partage, qu'on regrette, parce que dans l'équipe de direction, d'ailleurs, on a une nouvelle rédactrice en chef qui est arrivée aux manettes de l'édition dominicale. Mm-hmm. Le concept du dimanche a été préparé par un de mes adjoints, le directeur délégué Nicolas Charbonneau, et c'est Marie-Christine Tabet qui anime maintenant ce journal avec lui. Donc voilà, on y travaille, on essaye de progresser, et le constat que vous faites, que vous faites aussi, qui est de dire que c'est comme ça dans beaucoup d'entreprises de presse et dans l'immense majorité des entreprises de presse, on le fait aussi et on a envie que ça change.
Alors allons-y. Un petit mot également, puisque vous étiez venu annoncer dans l'instant M que le Parisien aujourd'hui en France arrêtait les sondages. Plus de manchettes sur les sondages, vous alliez couvrir la campagne électorale en France sans manchettes sur les sondages, vous alliez vous en passer. Ça a été, absolument incroyable, puisque puisque votre intervention a été reprise dans des journaux japonais, dans des journaux américains, etc. Vous vous y êtes tenu.
Oui, Paris tenu, effectivement.
Paris tenu.
Ouais, Paris tenu. On ne pensait pas. Enfin, c'était chez vous. On était venu annoncer ça à cette même émission.
Après, la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé derrière ?
Qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, il n'y a pas eu une manchette sur ce qu'on appelait la course des petits chevaux, c'est-à-dire la position jour après jour des uns et des autres. C'était une bonne chose. On a passé beaucoup de temps sur le terrain, sans doute plus que si on avait travaillé avec les sondages. Et aujourd'hui, on n'y est pas encore revenu. On reprendra les sondages. Le Parisien reprendra évidemment les sondages. Je pense que c'est un outil qui fait partie de la panoplie de l'analyse journalistique. En tout cas, ça peut aider à étayer un certain nombre d'idées. Et puis, de toute façon, je l'ai toujours dit depuis le début, il n'y a pas de grande démocratie où il n'y a pas d'institut de sondage. Enfin, plutôt, dans les dictatures, les sondeurs, on les aime pas trop. Donc, c'est un outil démocratique, le sondage aussi. Et donc, on y reviendra tôt ou tard. On n'a eu aucun regret, en tout cas, pendant la campagne présidentielle, ça c'est sûr.
Ça c'est sûr. Encore un sujet qui a agité vos troupes cette année. Je vous dis, cette année, on a plus entendu les journalistes du Parisien que d'habitude à propos de la présence d'un édito. Alors, la présence d'un édito, il est assez récent dans l'histoire du Parisien. Ça fait 5 ans, c'est-à-dire c'est rien du tout dans l'histoire du Parisien. Et puis, vous parliez de Nicolas Charbonneau tout à l'heure. Il a signé un édito qui a été lu comme très très pro-Macron le 29 foot. Peut-être que c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Toujours est-il que vos journalistes ont voté et voté massivement contre la présence d'un édito en disant ce journal a toujours été neutre, il a toujours couvert l'actualité sans s'engager, ce qui est la vocation première d'un édito. Vous avez répondu 75% contre. En même temps, c'est moi le chef et l'édito va rester.
Oui, voilà, l'édito va rester. L'édito, il nous semble intéressant parce que vous dites effectivement que c'est récent dans l'histoire du journal. Je pense qu'il faut bouger. Je pense qu'un journal comme Le Parisien aussi doit évoluer. Dans notre formule qui arrive le dimanche. Il y a une ouverture d'une double page sur des pages opinion et tribune. C'est quelque chose
comme
aussi
dans le JDD.
C'est aussi toute la presse, toute la presse. Là vraiment. Mais c'est quelque chose aussi qui suscite un petit peu d'interrogation en interne chez nous, parce que on nous dit mais pourquoi on va mettre des tribunes, pourquoi mettre des opinions? Simplement parce qu'aujourd'hui ça fait partie d'un mode d'expression qui est très puissant dans notre société, qui permet de faire avancer le débat, qui permet de créer des rebonds dans les sujets d'actualité. Donc on ne voulait pas s'en priver. De la même manière, ça n'existait pas il y a encore une semaine et ça existera à partir de dimanche. Et Le Parisien, pour finir sur son positionnement, ça n'est effectivement pas un journal d'opinion, mais c'est un journal, je dirais, c'est le journal des opinions. C'est-à-dire, c'est le journal où différentes opinions peuvent se retrouver successivement et se confronter. Voilà. Et ça, c'est très important.
On a quelques secondes encore. Je voudrais dire un petit mot sur le boulot que vous faites en matière d'information santé et société. Parce que le Levothyrox, c'est vous. Les 1000 médecins agressés, chiffres révélés par le Conseil de l'Ordre, c'est vous. Ça a été très important aussi dans l'actualité cette année.
Absolument. C'est un sujet. Ça fait partie de ces sujets qu'on essaye de détecter et qu'on détecte un peu avant les autres parce qu'on est très présent sur le terrain, ça, on en parle souvent.
Et le Levothyrox, c'est monté du terrain.
C'est très intéressant. C'est parti du terrain, c'est parti de témoignages de nos lecteurs qu'on a d'abord recueillis dans nos éditions départementales et qu'on a mis en scène, dont on a fait parler. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est parti effectivement de personnes qui habitaient en banlieue et que à l'arrivée, ça a fait bouger la position du gouvernement, du ministère de la Santé et de l'industrie pharmaceutique. Donc ça fait partie. Je vous remercie de le relever parce que ça fait partie du boulot de fond qu'on effectue.
Merci beaucoup Stéphane Albouy. L'IRIBEI vient d'arriver. Platon, vous êtes remonté de votre caverne, donc que vous êtes en retard.
C'est joli ça. Si Platon revenait pour observer notre vie quotidienne et notre monde contemporain, posez-nous toutes vos questions sur Platon, toutes les questions que vous vous êtes posées tout au long de votre vie. 01 45 24 7000.
Posez vos questions à Socrate.